Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes le mardi 26 mars et je suis ravie de vous retrouver. Je suis Marion, je suis ravie de vous retrouver ce matin pour débattre de l'actualité tech et c'est tout de suite le mug. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous avez la forme ce matin. Moi, j'ai la patate. Ça va. Le printemps, on sent qu'il arrive. Et donc, du coup, c'est un regain d'énergie avec le soleil qui se lève beaucoup plus tôt qu'avant et les températures qui montent. Enfin, même si on a une petite baisse encore cette semaine. Comment ça va dans la chatroom? Alors désolé, hein, il n'y a pas eu beaucoup d'attente. J'ai tout simplement oublié de déclencher l'attente. Donc j'ai artificiellement attendu un peu plus après l'avoir déclenché ce matin. Voilà, j'étais tellement impatiente de commencer l'émission que carrément je voulais pas vous faire attendre. Donc voilà pour la petite histoire, pour ceux qui se demandaient pourquoi le live n'était pas encore commencé. Salut à tous. Salut Grol, salut Oleg, salut Olivier, salut Andy76, salut Nico Aperture, salut Pax Magellanis, salut Vitoxy, salut Alan Poisson, salut et un grand merci à Power Loutre pour ton soutien. Salut à toi. Salut à Joey Sidewinder, salut Malox51, salut Laetitia Schlepa, salut Eliav, salut Yves Castel, salut Vlad Jeziane 6971, salut Poppy21000, un grand merci, un bien bonjour à Neo9256. Salut également à Julie1M et salut David le Panda Fou du 57. Comment ça va? Salut Hiroshima Mine. Ça fait trop plaisir de vous voir. Écoute, Joey, ben, ça fait plaisir de te retrouver. Tu nous dis que ça fait super longtemps que tu n'étais pas venu. Et ben, écoute, le plaisir est partagé. Bienvenue à toi dans la chatroom. Salut Riri Desbois. Donc voilà, salut Dr Rictus. J'espère que vous êtes levé de bonne humeur ce matin. Et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Les actualités qu'on a sont super intéressantes ce matin. Donc je pense que ça va être des discussions très sympa sur la tech aujourd'hui. Salut une vie de lectrice. Écoute, toi aussi, tu nous dis ça fait longtemps que tu n'as pas pu venir. Et bah, on a des habitués qui reviennent, ça fait plaisir. Je me pose la question de pourquoi on ne voit plus Guillaume, parce que Guillaume est parti voguer vers de nouvelles aventures. Et ça date de fin novembre, je crois. Si je me rappelle bien, le temps passe vite. C'est dingue, le temps passe vite. Il me semble que c'était fin novembre qu'il a quitté l'équipe. Bon, il avait envie enfin, il avait d'autres projets. Voilà, donc on le suit, mais voilà, plutôt dans la sphère personnelle où on prend des nouvelles et tout, et ça a l'air d'aller. Voilà. Donc voilà pour la petite histoire de Guillaume. Mais de quoi va-t-on parler ce matin? Parce que quand même, c'est le sujet du jour. Et du coup, on va parler intelligence artificielle. Hein. Comme je vous disais, je fais toujours une petite sélection d'articles chaque jour pour voir quel angle je peux aborder pour l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on va parler de OpenAI et plus précisément de l'intégration de ChatGPT dans un robot, un vrai robot, j'allais dire de chair et d'os, mais non de mécanique, on va dire ça comme ça, un robot qui en jette, et je vous montrerai la petite vidéo rapidement, c'est le robot Figure One. Voilà, de la société Figure qui s'est associée avec OpenAI justement pour faire parler son robot et lui donner des meilleures capacités de compréhension sur comment les gens lui parlent, voilà, pour répondre aux demandes. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis également, on a Google. Comme tous les géants de la tech, hein, Google qui va aussi de ses tests et notamment il teste justement de répondre à certaines requêtes des utilisateurs sur son moteur de recherche avec une réponse générée par intelligence artificielle, surtout quand les réponses en fait vont avoir besoin de combiner des résultats de plusieurs sites internet. Et ben du coup, pour pouvoir faire ça, il est obligé de générer une réponse. Et donc c'est ce qu'on voit dans le test que je vous montrerai tout à l'heure avec un petit aperçu en screenshot. Voilà, donc ça, c'était quelque chose qui était avant testé vraiment en petit comité. Il fallait opt-in, donc vraiment aller chercher dans les réglages pour autoriser ça. Maintenant, c'est en train d'être testé à certains utilisateurs sur le sol américain pour l'instant uniquement. Voilà. Et puis, on parlera également quand même après les États-Unis de l'Europe et notamment justement quelques semaines après l'entrée en vigueur du DMA, du Digital Market Act, qui a fait beaucoup, beaucoup parler de lui. Et on a la Commission européenne qui a annoncé enquêter sur justement l'application du texte chez Alphabet, Apple et Meta en cas de non-conformité. Ces entreprises pourraient être forcées de changer leurs pratiques ou de scoltiner une amende. Donc, on reviendra un petit peu là-dessus, puisque chaque société a été en discussion, justement, avec la Commission européenne sur l'application du texte, du nouveau texte qui est rentré en vigueur le 7 mars dernier. Et bien sûr, ils vont défendre leur position, mais la Commission n'a pas. Ça n'a pas empêché la Commission de déclencher, en tout cas, des enquêtes. On verra un peu plus précisément les sujets des différentes enquêtes en fonction des différentes boîtes. C'est assez intéressant à voir. Voilà, donc après, pas d'inquiétude à avoir encore pour ces boîtes, parce que de toute façon, le temps que l'enquête se déroule, on en a pour environ à peu près plusieurs mois, c'est sûr, jusqu'à potentiellement un an. Donc à voir. Et puis, on parlait d'Apple, on continuera de parler d'Apple, mais plus précisément de iOS 18. Et d'ailleurs, pour les curieux, il y a une nouvelle vidéo qui est disponible sur la chaîne Naotech sur YouTube qui vous parle justement d'iOS 18 et pourquoi Apple ne peut pas se rater pour iOS 18. Elle est super intéressante, courez la regarder, mais juste après le mug, évidemment. Donc voilà, pour ceux qui n'étaient pas au courant, nouvelle vidéo sortie dernièrement. Et donc on parlera d'iOS 18 et d'autres rumeurs qui arrivent, avec notamment potentiellement la possibilité de mieux customiser l'écran d'accueil de votre iPhone. Alors certes, on a vu dans les dernières années que c'était de plus en plus customisable, avec certaines limites. Alors maintenant, vous avez des widgets que vous pouvez placer. On a le lock screen, lui, qui est un peu plus customisable quand même. Vous pouvez changer la typographie, la taille, le texte qui passe plus ou moins devant ou derrière votre fond d'écran, etc. Mais là, ça serait carrément sur la disposition des icônes. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Et puis, quand même, on parlera de l'article du jour qui fait le titre de l'émission ce matin. C'est on va s'intéresser à Visa et Mastercard. Vous savez, ces moyens de paiement qui sont vraiment largement dominants aujourd'hui dans le monde. Et on va essayer de comprendre pourquoi les pays, certains pays en tout cas, essayent de se désengager finalement de Visa et Mastercard en ayant de nouveaux systèmes de paiement qui émergent et qui sont en train de se mettre en place. Donc, je trouvais l'article assez intéressant. C'est un article de Journal du Net. On reviendra dessus. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Et puis, on continuera en prenant cette fois-ci des nouvelles de deux dernières applications. On prendra des nouvelles de Spotify. Spotify qui fait l'arrivée de la vidéo sur son application. Non, c'est pas une blague. Après les podcasts, après la musique, etc. Et notamment même des audiobooks. On restait quand même sur la thématique de l'audio. Et bien maintenant, Spotify trempe le pied. Voilà, dans la vidéo avec des vidéos éducatives ou de développement qui font leur arrivée sur l'application. On verra un petit peu plus précisément pourquoi ils essayent de pivoter là-dessus et comment ça se passe. Et puis, l'autre application dont on prendra des nouvelles, c'est Threads. Threads qui a annoncé toute une série de petites nouveautés pour le réseau social. Donc, Threads, c'est le réseau social qui tend à concurrencer X, anciennement Twitter, et qui est Threads, donc sous la coupe de Meta, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il propose ? Il propose maintenant d'afficher en temps réel des scores des matchs de NBA. Il propose également de limiter l'affichage du contenu politique du côté de Threads, mais également d'Instagram, avec un réglage par défaut qui fait son arrivée et qui va être déployé. Donc, on en avait déjà parlé en début d'année, mais là, ça y est, c'est en train d'être déployé. Je vais pouvoir vous dire comment le trouver si votre application a déjà eu la mise à jour. Et puis enfin, on a eu Threads qui prend une position sur le fait divers. Alors, le fait divers, c'est quoi? C'est un réseau un network, donc oui, c'est un réseau de réseaux sociaux ou de plateformes sociales qui veut vous permettre de pouvoir poster à la fois sur une plateforme et en même temps de pouvoir poster automatiquement sur les autres plateformes et recevoir aussi les updates des autres plateformes. Donc c'est à la fois permettre à des réseaux sociaux d'être indépendants et à la fois interconnectés. Voilà, donc on verra un petit peu plus précisément comment et quelle forme ça prendra avec Threads sur ce sujet. Voilà les sujets du jour. J'espère que ça vous plaît dans la chatroom. J'en profite pour... Oh là là, Flonflon qui nous a fait une dédicace. Salut Flonflon et bienvenue à toi. J'avais raté ton arrivée. Salut et un grand merci du coup à ceux qui nous soutiennent comme Manon, petit coucou Naotech, merci de vos dernières vidéos, elles sont top, bonjour à la modération également, et ben bienvenue à toi Manon, c'est toujours un plaisir de t'avoir dans la chatroom, et salut à Alex B49, Unsui 7, Shiba Yu et Loki Watson. Voilà. C'est dangereux de moins voir le contenu politique, par contre, eh ben justement, Loki Watson reste avec nous parce que ça serait intéressant d'en discuter justement. Et voilà, sans plus tarder, je vous propose de commencer avec le premier article aujourd'hui. Et avant d'en parler, eh ben, je vais peut-être vous montrer un petit extrait. Voilà, hop, j'essaie de déclencher la vidéo. Et je vais... Alors, vous n'aurez pas le son. Et un grand intérêt quand même de la vidéo, c'est quand même le son. Donc, je vous encourage à aller récupérer l'article dans le Flipboard de Naotech ou sinon, dans la chatroom, peut-être essayer de partager le lien pour que les gens puissent aller voir la vidéo. Mais là, vous avez une démo, tout simplement, ici, d'un robot de la société Figure qui s'est associé en fait avec OpenAI pour pouvoir faire parler et faire mieux comprendre le robot en question que vous pouvez voir. Donc en fait, vous avez la personne ici qui lui parle et qui lui donne des instructions, notamment de ranger les éléments qui sont en face de lui, là où ça lui semble plus pertinent, et lui dit il faut en fait le ranger sur l'égouttoir, ça me semble le mieux, et donc il dit vas-y, fais-le. Et donc là, il montre un petit peu la dextérité et la compréhension pour ses tâches. Voilà. Donc voilà un petit peu pour la démo du robot. Plus précisément, c'est un peu la dernière évolution ici dans le monde de l'intelligence artificielle où on associe l'intelligence artificielle à la robotique et les développements robotiques avec donc ce Figure 01, le robot humanoïde avec ChatGPT. Et donc du coup, on a donc Sam Altman, PDG de OpenAI, qui mise beaucoup sur les robots humanoïdes et notamment il estime qu'ils peuvent aider dans la vie de tous les jours. Et ce nouveau partenariat sert donc à accélérer le calendrier commercial de Figure. Et c'est vrai que ce n'est pas nouveau cette idée que les robots vont pouvoir nous aider dans notre quotidien et dans la vie de tous les jours, surtout notamment avec une population qui est quand même vieillissante. C'était quelque chose dont on avait déjà entendu parler, notamment au Japon, où ils essayent justement de développer ces assistants ou ces majordomes robotisés pour aider dans certaines tâches les personnes un peu plus âgées dans leurs tâches du quotidien. Et donc là, on a donc la startup américaine Figure qui s'associe donc à OpenAI. Cette société Figure, elle est soutenue par Microsoft, Amazon et Nvidia et elle a justement récemment annoncé avoir levé quand même 675 millions de dollars, ce qui la valorise à 2,6 milliards de dollars. Voilà, donc ce robot est donc le fruit d'un travail d'acteurs clés, pas non seulement de Figure, mais de Boston Dynamics, Google, DeepMind et Tesla et Archer Aviation. Et l'objectif, c'est de créer le premier robot humanoïde à usage général, commercialement viable au monde. Il se déplace, donc pour un peu plus d'informations technique. Il se déplace à 4 km/h, donc relativement lent. Mais bon, là, le but, c'est pas d'être tout le temps mieux que l'humain, c'est de pouvoir assister l'humain. Donc, il se déplace à 4 km/h. Il peut porter jusqu'à 20 kg, donc ça peut être quand même assez pratique. Et mesure 1m60. 1m60, voilà, ça fait un petit humain. Pour référence, moi, je fais 1m63. Et je suis pas la plus grande de la Terre. Là, j'ai un gabarit moyen pour une femme. Mais donc, j'extrapole pour me dire que 1m60, ça va. C'est relativement grand pour faire des choses assez utiles et atteindre des emplacements assez hauts. Mais à la fois, c'est suffisamment petit pour pas être intimidant non plus. Je me dis, hein, mais en même temps, il va avoir presque ma taille. Donc moi, je me dis, je vais quand même me sentir un peu intimidée quand même s'il est en face de moi. Mais je me dis quand même, on va dire malheureusement les hommes, qui sont peut-être généralement plus grands, ça sera moins intimidant, donc peut-être plus facile à accepter, à voir. Il peut accomplir de nombreuses tâches quotidiennes qui nécessitent beaucoup de dextérité, comme préparer du café. Voilà. Et donc du coup, l'intérêt ici, c'est qu'avec le système conversationnel de ChatGPT qui est maintenant intégré dans ce robot, eh ben, en plus d'accomplir toutes sortes de tâches du quotidien, il peut également maintenant communiquer de manière extrêmement fluide et intelligente, à mettre entre des guillemets évidemment, car justement OpenAI permet au robot de mieux comprendre les mots prononcés, tandis que les propres réseaux neuronaux de figure permettent de capter ce langage via ses nombreuses caméras. Donc en fait, il y a là, ce qui est intéressant, c'est du multimodal, c'est qu'à la fois il va mieux comprendre les requêtes et les demandes des personnes qui interagissent avec le robot, et à la fois comprendre son contexte et l'environnement dans lequel il est, notamment mieux interpréter ce qu'il a en face de lui dans le contexte de ce qui lui est demandé aussi. Donc ça, c'est assez vraiment intéressant. C'est ça qui est un peu le futur ici de l'intelligence artificielle, c'est de comprendre de manière contextualisée les demandes qui sont faites avec un suivi, c'est-à-dire on commence sur un sujet et on continue un petit peu dessus. Donc il peut vraiment contextualiser tout ce que nous voyons grâce à ses yeux et obéir à nos demandes. C'est pas les seuls, hein, Figure 01 et OpenAI qui sont dans le marché de la robotique et de l'IA. Récemment, on a également Sanctuary AI qui a créé Phoenix, un robot agile boosté à l'intelligence artificielle qui a été conçu pour justement aider les êtres humains à accomplir des tâches contraignantes qui demandent beaucoup de précision. On a également Tesla, la société d'Elon Musk, qui a quant à lui présenté son robot Optimus à l'époque. Et puis, on a également Xiaomi, qui travaille sur un robot capable de détecter des émotions et expressions des êtres humains. Et enfin, Boston Dynamics, un organe du MIT, hein, spécialisé dans la robotique, qui travaille sur Atlas. On avait déjà vu des vidéos d'Atlas, un ouvrier robot surpuissant, capable de faire des saltos. Voilà un petit peu pour les autres initiatives en cours sur le sujet. Je regarde un peu vos commentaires dans la chatroom. Les personnes plus âgées, elles, veulent surtout des contacts humains. Oui, tout à fait, Yves Castel. Et justement, c'est là que tu pourrais peut-être avoir notamment le robot de Xiaomi, capable de détecter des émotions et des expressions des êtres humains, qui pourrait donner des interactions peut-être plus intéressantes pour les personnes un peu plus âgées. Alors, le but, ce n'est pas de complètement remplacer les interactions humaines. Là, on ne veut pas aller vers un futur dystopique, mais d'avoir des échanges peut-être un peu plus riches. Et peut-être comprendre quand il y a une détresse émotionnelle, peut-être, pour pouvoir contacter les personnes les plus adaptées et apporter ce dont ces personnes ont besoin. Voilà. Tu pourrais imaginer que le robot proactivement organise une visite entre la famille et la personne âgée pour permettre à la personne âgée de mieux et de plus voir sa famille. Voilà. Donc ça peut être intéressant. Majordome en un seul mot. Et oui, on pourrait l'appeler Andrew. Bah pourquoi pas. 4 km/h, c'est une vitesse de marche standard humaine. Ouais. Merci, Oleg. Merci beaucoup, Mansière, pour ton soutien. Un grand, grand merci à toi. Pour certains, c'est Major Doomsday. Pas mal. Voilà. En tout cas, on verra, on n'en est vraiment qu'au début, mais en étant qu'au début, ça devient quand même très, très impressionnant. Voilà. Moi, je suis vraiment très, très fascinée par ces développements. Alors, évidemment, il faudra toujours faire attention, toujours garder les intérêts et la sécurité des personnes au centre. Je suis d'accord avec vous et avec vos inquiétudes, mais c'est quand même super, super intéressant. On continue avec l'intelligence artificielle et peut-être un effet un peu moins waouh qu'un robot qui parle et qui vous comprend beaucoup plus, de manière beaucoup plus fluide comme Figure 01. Mais cette fois-ci, on va aller du côté de Google. Google qui travaille durement avec Gemini ou Gemini. Et si vous êtes aux États-Unis, vous allez pouvoir potentiellement voir une nouvelle section qui va apparaître en haut de vos résultats de recherche pour certaines recherches, avec un résumé qui va répondre à votre requête avec des liens vers plus d'informations. Donc, à quoi ça ressemble? Eh ben, je vais vous montrer une petite capture d'écran un peu floue, excusez-moi, mais c'est mieux que rien. Donc là, vous vous retrouvez l'interface assez classique hein, de Google avec des résultats qui sont affichés. Alors, la requête, c'est qu'est-ce qui est mieux pour une famille avec des enfants de moins de 3 ans et un chien? Est-ce que c'est Bryce Canyon ou Arches National Park, parce que je peux voir que la réponse est Arches National Park, donc je me dis que c'est la comparaison entre les deux. Et donc du coup, là, comme il y a vraiment un besoin de comparaison, qu'est-ce qui va se passer? Ben, potentiellement Google, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne va pas y avoir peut-être un site internet qui va spécifiquement comparer les deux parcs, mais peut-être plusieurs sites qui vont parler de chaque parc et des avantages et des inconvénients de chaque parc. Et donc, du coup, on ne va pas pouvoir répondre de manière avec un résultat unique ou un site internet unique à cette requête. Et donc, c'est là où Google peut avoir un intérêt de vous proposer un résumé généré par intelligence artificielle qui va combiner ce qu'il a trouvé dans les différents sites internet pour vous faire un résumé comparatif, puisque c'est ce que vous avez demandé dans la requête. Donc, ici, on a vraiment la comparaison où il nous dit à la fois Bryce Canyon et Arches National Park sont adaptés pour une famille, même si les deux parcs interdisent les chiens sur les chemins non pavés, Bryce Canyon, lui, a deux chemins pavés qui autorisent les chiens, à l'inverse de Arches qui bannit complètement les chiens en dehors, sur tous les chemins, mais qu'il les autorise uniquement sur les lieux de campement, sur les bas-côtés, les routes ou les parkings. Voilà, donc déjà, ça, c'est intéressant parce que de manière très, très rapidement, vous dites, OK, bon, si on a un chien, on a peut-être envie d'aller se balader avec le chien. Donc, peut-être que le Arches National Park n'est vraiment pas adapté. Et puis après, il va comparer certains intérêts, centres d'intérêt des deux parcs pour les enfants aussi, pour voir qu'est-ce qui est le plus adapté. Donc, ça, c'est un bon exemple de s'il n'y a pas un site internet qui répond spécifiquement à la requête, l'intelligence artificielle va vous permettre, générative, va vous permettre de générer une réponse qui va prendre les informations des différents sites et vous faire un résumé ici. Donc, c'est pour des requêtes un peu complexes. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Donc, ça, pour l'instant, ce test, il est uniquement disponible aux États-Unis pour une petite partie des utilisateurs et pour une petite partie des requêtes, parce qu'il faut que ce soit des requêtes compliquées. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc, Google est en train de montrer cette expérience et de déployer cette expérience, même si vous n'avez pas activé le réglage, parce qu'avant, ce test était uniquement ouvert à certaines personnes à des personnes qui avaient proactivement activé ce réglage dans les réglages de leur navigateur ou de leur moteur de recherche. Attendez, j'essaie de retrouver. Hop. Voilà, ils avaient déployé la fonctionnalité à 120 pays avec plus de langage que juste l'anglais, mais ça restait bloqué derrière un réglage de opt-in. Et maintenant, cette expérience est montrée même si vous n'avez pas opt-in à cette expérimentation. Mais ça s'active quand vous regardez ou quand vous cherchez des requêtes un peu compliquées. Et si Google pense qu'il a une bonne réponse pour ça. Évidemment, si Google a évalué qu'ils n'ont pas de réponse, ils ne vont pas vous montrer la requête vide ou pas intéressante. Donc, il y a un niveau de confiance sur l'intérêt de la réponse générée par l'intelligence artificielle. Alors, il y a des modèles, c'est intéressant parce qu'un des intérêts un des grands sujets dans l'intelligence artificielle, c'est les modèles d'évaluation qui va permettre d'évaluer si une réponse générée par IA va être pertinente ou pas. Et donc, ces modèles d'évaluation vont être assez critiques pour pouvoir à la fois améliorer l'intelligence artificielle et décider d'afficher ou pas les résultats générés par l'intelligence artificielle pour une meilleure expérience. Voilà. Et donc le but, pourquoi vous allez me dire, pourquoi ils décident d'afficher ça à plus de monde? Bah, tout simplement, je pense qu'ils en sont à un stade où ils veulent conduire plus de tests et recevoir plus de feedback de vrais utilisateurs, et notamment ceux qui n'ont pas activé proactivement la fonctionnalité. Parce que ceux qui ont activé proactivement la fonctionnalité, ça va être un peu potentiellement des personnes trop intéressées par la tech, trop éduqués sur le sujet et donc biaisés. Et donc, de le déployer à une plus grande partie des utilisateurs, ça va permettre d'avoir du feedback un peu plus vrai, de vraies personnes, entre guillemets, ou de personnes un peu plus lambda, qui n'est pas aussi avertie sur l'intelligence artificielle que nous, par exemple. Voilà. Donc, moi, je trouve ça super, super intéressant. Alors, là où ça sera intéressant aussi, c'est la capacité à avoir, à pas dire de bêtises quand ils reprennent des informations des sites internet. Alors, ce qui est rassurant aussi, c'est qu'ils affichent quand même les résultats des sites internet qui ont été utilisés. Donc, ça met en avant quand même les sites internet qui ont été utilisés. Aussi, bah, d'un point de vue de référencement ou de rémunération des sites internet, ça pouvait être potentiellement un vrai problème. Donc, il y a le modèle de rémunération, le modèle économique ici qui peut poser des questions. Et donc là, ce que vous pouvez voir aussi qui est intéressant en termes d'expérience, c'est que vous pouvez voir qu'il y a des suggestions pour poursuivre la conversation avec l'intelligence artificielle générative. Alors, Ask Follow-up, je trouve que c'est un mauvais exemple parce qu'en fait, Ask Follow-up sur quoi? Enfin, ça ne veut rien dire. Mais par contre, vous avez des exemples de questions pour creuser un peu plus la réponse, ou combien de temps passer à Bryce Canyon avec des enfants, ou combien de jours vous avez besoin de rester dans le parc national Arches avec des enfants. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, bah, c'est vrai qu'il y a l'intérêt des enfants qui peut se lasser s'il n'y a pas assez de choses différentes à voir, que les enfants peuvent se fatiguer, etc. Donc, il y a une notion de variété d'activités ou de choses à découvrir pour les enfants qui est à prendre en compte et qui va être différente si c'est pour des enfants ou pour des adultes. Voilà, parce que les activités ne seront pas potentiellement toutes adaptées à des enfants. Ou Oleg qui suggère où perdre ses enfants le plus efficacement. Voilà. Pour l'instant, Google n'a pas mis cette question. Je pense qu'ils ont eu raison. Mais vous pouvez voir que voilà, il y a un espèce de scroll horizontal en bas. Parce que vous pouvez voir qu'il y a une autre suggestion qui est à peine visible. Là, vous voyez la petite flèche ici qui va au retour qui introduit la question. Vous pouvez voir qu'il y en a une autre qui s'affiche un peu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez donc le feedback, le petit pouce up et le petit pouce down qui sont directement visibles pour noter du coup la réponse. Parce que ça, c'est un vrai critère ici un vrai critère pour comprendre un peu la capacité de réponse et avoir du feedback et encourager les gens à donner du feedback. Voilà. L'hypothèse quand on met du pouce up, du pouce down, c'est que les gens qui ne sont pas satisfaits de la réponse vont être plus incités à le mettre. Donc, il y a un biais connu là-dessus. C'est pareil dans les commentaires, hein, et dans les notations. Donc, voilà un petit peu pour fonctionnalité. Voilà. Je vous propose de continuer et après avoir parlé donc des États-Unis, puisque cette fonctionnalité de Google, pour l'instant, n'est disponible uniquement que sur le sol américain pour un petit nombre, un petit pourcentage du trafic et un petit nombre de requêtes spécifiquement complexes. Là, on va s'intéresser à qu'est-ce qui peut se passer spécifiquement sur le sol européen. Et cette fois-ci, On va parler donc de la Commission européenne et du DMA, du Digital Market Act. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Pour revenir un petit peu sur le contexte et où on se trouve aujourd'hui, depuis le 7 mars, l'Union européenne impose des règles strictes aux géants de la tech. On a donc le fameux Digital Market Act, le DMA, qui vient donc encadrer plusieurs pratiques avec pour objectif de limiter les abus de position dominante des grandes entreprises américaines pour favoriser la compétition, puisque l'hypothèse, c'est qu'une meilleure compétition et un marché plus ouvert va bénéficier les utilisateurs à la fin. Et donc, du coup, on a Apple, Google, Meta et Amazon qui doivent notamment donc le respecter. Et parmi les changements phares du règlement, on a Apple qui doit maintenant autoriser l'installation d'applications en dehors de l'App Store. On a plein de choses comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ? En fait, finalement, seulement quelques semaines après l'entrée en vigueur de ce fameux règlement du DMA, la Commission européenne a annoncé qu'ils allaient enquêter sur l'application du texte et la conformité de l'application du texte chez plusieurs sociétés, notamment Alphabet, Apple et Meta, et pour évaluer s'ils sont conformes ou pas. En cas de non-conformité, ces entreprises pourraient donc forcées de changer leurs pratiques ou faire face à une amende. Voilà, donc ça, ça a été annoncé le 25 mars, donc moins de 20 jours après l'entrée en vigueur du règlement. Alors, dans les enquêtes de l'Union européenne, quels sont les sujets qui sont dans le viseur ? Donc, c'est ça qui nous intéresse un peu plus ce matin. On a Apple qui doit autoriser les développeurs à promouvoir des offres en dehors de leurs applications sans commission payante. Alors là, la Commission européenne s'inquiète un peu des mesures qui ont été mises en place par Apple, c'est pas les seuls. Hein. La communauté des développeurs a décrié aussi l'interprétation du règlement par Apple avec leur proposition, parce que a priori, elle empêcherait les développeurs de contourner l'App Store. Apple affiche un grand message d'avertissement et force les applications à changer de modèle économique pour avoir cette possibilité au risque de payer. On a également Google qui doit aussi autoriser eux-mêmes les développeurs à promouvoir des offres en dehors de leur application sans commission payante. L'entreprise a elle aussi mis en place ses propres commissions. Donc voilà, donc la Commission européenne s'énerve un petit peu sur ces enjeux-là. Et de l'autre côté, on a donc les plateformes du type Apple et Google qui vont argumenter que pour la sécurité et la rémunération de l'environnement qu'ils mettent à disposition des développeurs, eh ben, ils ont besoin d'avoir une certaine commission. Voilà. Donc ça, c'était assez intéressant parce qu'on avait eu notamment des développeurs qui avaient questionné Apple sur le besoin de rémunérer Apple après un certain nombre de téléchargements de l'application et qui pourraient du coup prévenir certains étudiants ou individus de pouvoir finalement être créateurs ou entrepreneurs et qui pourraient pénaliser finalement la dynamique sur l'App Store et la capacité de créer. Et là, Apple n'avait pas complètement fermé la porte à revoir leur règlement qui pourrait faire des exceptions pour ce type de cas. Mais ils avaient mentionné que ces cas-là étaient relativement rares et que le règlement qu'ils avaient mis en place pour appliquer le DMA ne visait pas ces individus. Et le but n'est pas de pénaliser ou de mettre en faillite certaines familles, mais plutôt de viser les géants de la tech ou des grandes boîtes pour éviter certains abus. Voilà, à voir. Donc, on est vraiment ici dans une discussion et de trouver le juste milieu ici pour l'application du règlement. Autre élément qui est dans le viseur de la Commission européenne, Google n'a pas le droit de mettre en avant ses propres services, notamment Flights, Hotel et Shopping, lors d'une recherche Google. Alors là, a priori, la Commission suspecte que Google continue de favoriser ses propres services. On a également Apple qui doit inciter ses utilisateurs à choisir des applications par défaut différentes potentiellement des siennes. Ce qui a fait pas mal parler, c'est notamment le nouvel écran de choix du navigateur pour donner des options alternatives à Safari. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? C'est lorsque vous ouvrez Safari pour la première fois ou juste après la mise à jour, vous avez un écran de choix. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Ici, hop, Voilà, ça ressemble à ça. Donc, vous avez un premier écran qui introduit bah, de quoi il s'agit hein, à propos de votre choix de navigateur. Bah, avec iOS, vous avez le choix de définir votre navigateur web par défaut. Et en changeant ce réglage par défaut, vous contrôlez quelle application va ouvrir lorsque vous ouvrez un lien de site internet. Vous pouvez changer ce réglage par défaut de navigateur à tout moment dans les réglages. Donc là, il y a eu beaucoup de critiques sur l'expérience proposée par Apple et définie par Apple. Donc là, vous avez cet écran d'introduction qui essaye de vous contextualiser, de vous expliquer de quoi il s'agit, parce que bah, y a un enjeu premier, c'est tout le monde n'est pas au courant de qu'est-ce que c'est un navigateur web. Alors pour certains, ça peut étonner, mais en fait... Là, on rentre dans des technicités dont la majeure partie s'en foutent. Hein, je vais mettre un peu les pieds dans le plat, mais la réalité, c'est ça. Hein, quand on n'est pas fan de tech ou très averti dans la tech, ben, franchement, on s'en fout un petit peu de ça. Et on va juste. Le but, c'est juste d'accéder à des sites internet. Comment on y accède, on s'en fout un petit peu, entre guillemets. Là, je parle du grand public. Hein. Donc, il y a déjà cette question de est-ce que les gens vont comprendre qu'est-ce qu'on leur demande et de quoi il s'agit. Donc là, la petite phrase de « c'est quelque chose qui va définir quelle application va ouvrir quand vous cliquez sur un lien de site internet », ça peut-être aider un peu, mais voilà, pas évident de comprendre ça. Et puis ensuite, on a donc la liste des applications. Alors oui, Oleg, c'est important vu le nombre de personnes qui confondent navigateur et moteur de recherche. Pas sûr, alors ça c'est une confusion vraiment connu, hein. C'est pas anecdotique, c'est une vraie confusion réelle. Pas sûr que l'explication d'introduction aide à faire la différence. Elle ne fait pas la différence. Honnêtement, tu vas me dire, bah, en fait, un moteur de recherche peut me donner un accès à un site internet, puisque par définition, il y a des résultats qui vont pointer vers des sites internet. Donc là, on n'est pas vraiment dans la clarification de la différence entre les deux. Donc, c'est un peu un risque. Donc, certains vont dire « Ah ben, je veux Google », et ils ne vont pas trouver Google dans la liste, quoi. Donc, potentiellement, il y a peut-être un peu... Il y a quand même cet enjeu, quoi. Voilà. Et donc, ensuite, une fois que vous avez donc cet écran d'introduction et que vous cliquez sur « Continuer », là, vous avez la liste des applications disponibles. Alors là, il y a une sélection, je crois, des 11 navigateurs les plus utilisés dans le pays de l'utilisateur, qui sont affichés de manière aléatoire en termes d'ordre. Voilà, donc là c'est pas mal. Hein. Et donc, on a donc Safari, mais on en a plein d'autres. Alors là, le problème ici, c'est que si certains vont peut-être être reconnus par certaines personnes, mais il y en a d'autres, franchement, qui vont juste pas dire quelque chose, genre Aloha, je sais pas moi, Maple Media Apps avec Browser, enfin, il y en a qui sont vraiment pas très connus, quoi. Ecosia peut-être, Onion Browser, voilà, il y en a certains, on les connaît peut-être un peu de nom, mais même pas pour d'autres. Et, moi, je les connais de nom, parce que je suis dans la tech, alors j'imagine même pas ceux qui sont pas dans la tech, ils vont être là, mais je comprends pas, il y a rien, là il y a rien que je reconnais quoi potentiellement. Donc il y a vraiment un risque ici d'ajouter pas mal de friction dans l'usabilité quoi. Donc bon, et puis il y a un autre risque, c'est que généralement ces écrans là, ils sont jamais affichés au bon moment, c'est-à-dire bah quand tu ouvres Safari, c'est que tu as quelque chose en tête. Et que tu essayes d'accéder ou de chercher quelque chose. Et donc, en fait, là, on t'empêche, on te met une barrière et finalement, bah, ça ne t'intéresse pas. Ou l'autre jour, un exemple concret, je voulais mettre à jour, mais juste, je n'avais pas le temps de m'y intéresser. Donc, j'ai mis à jour mon système mon operating system. Et genre, je l'ai fait quand je suis allée faire les courses. Et au moment où j'ai voulu prendre mon téléphone pour afficher ma carte de fidélité pour le magasin où j'étais, eh ben, j'avais des écrans de choix, d'introduction de mise à jour. J'étais là, mais je m'en fous, c'est pas le bon moment. Et donc, j'ai cliqué sur des trucs, j'ai même pas fait attention sur quoi je cliquais, quoi. Donc, typiquement, ça, c'est un vrai problème. Donc, il y a le moment et l'intention de l'utilisateur qui sont très, très importantes. Mais bon, à un moment donné, Apple, ils veulent à la fois être... appliquer le règlement du DMA pour être en accord avec la loi, et à la fois, enfin, il y a un moment donné, il n'y a pas d'excellente solution possible. Voilà, donc à voir comment ça va évoluer. Donc voilà, donc il y avait ces types de choix d'applications pour éviter d'avoir seulement les applications Apple par défaut. Et puis après, en autre enquête, il y a Meta, qui doit proposer à ses utilisateurs un moyen de ne pas être suivi. Et donc, l'entreprise a fait le choix de proposer un abonnement payant. Et donc là, la Commission européenne n'est potentiellement pas contente. Mais là, franchement, c'est vraiment compliqué quoi, pour Facebook qui sont... modèle, son business model repose sur la monétisation avec la pub. Et genre, ils peuvent pas développer un service alternatif sans pub. Ça ne fait pas de sens. Ça va créer une dette technique et un coût de maintenance qui ne fait pas juste pas sens pour Facebook de le maintenir. Et donc, du coup, pour pouvoir monétiser et absorber les coûts de maintenance sur cette version qui ne traque pas, bah, ils la rendent payante. Donc, à un moment donné, les choix de la Commission européenne donnent en effet la création de ce genre de choix. Voilà. Donc, si tu ne veux pas payer, l'alternative, c'est si tu ne veux pas de pub, l'alternative, c'est de payer pour enlever ces pubs, quoi. Bref, je suis un petit peu étonnée. Maintenant, peut-être qu'en effet, l'abonnement n'est pas au bon prix ou pas présenté de manière assez pédagogique ou éducative pour que suffisamment de personnes comprennent l'intérêt. Ça peut être évalué. Mais on ne va pas demander à des entreprises qui essayent de faire du revenu de travailler pour rien non plus. Voilà, donc ce n'est pas des associations caritatives ici. Voilà. Donc, il y a des fois des choses qui me paraissent un peu étonnantes. Mais bon, voilà. On rentrera dans les détails avec justement l'enquête. Autre élément qui est dans le viseur de la Commission européenne, c'est Amazon qui n'a pas le droit également de favoriser ses propres marques et qui a l'air de continuer à le faire. En tout cas, c'est le sujet de l'enquête de la Commission européenne. Et également, ensuite, Apple qui doit autoriser l'installation d'applications en dehors de l'App Store, mais qui, a priori, son système de magasin tiers avec une commission de 50 centimes, pourrait nuire au DMA et dissuader finalement la communauté des développeurs d'aller là-dessus. C'est un peu les reproches qui ont été largement communiqués sur les réseaux sociaux et sur notamment avec Spotify, etc., qui se sont un peu révoltés par rapport à cette interprétation du DMA. Voilà. Et puis ensuite, il y a la Commission européenne qui donne aussi des nouvelles de l'interopérabilité qui avait été demandée entre Facebook Messenger, WhatsApp et Instagram. Elle indique qu'elle avait reçu une demande de report de 6 mois de la part de Meta et qu'elle a jugé que c'était raisonnable. Donc Meta a 6 mois de plus pour finaliser son système universel. Voilà, ça me semble OK. Hein. De toute façon, on est vraiment là-dedans, hein, dans quand même une discussion. Ces boîtes, Alphabet, Meta, etc., n'ont pas intérêt à se mettre à dos la Commission européenne et plutôt à discuter et travailler avec eux pour voir qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui fait sens à la fois pour respecter le règlement et répondre permettre une expérience utilisateur quand même de qualité, quoi. Voilà un petit peu pour les sujets d'enquête. Je regarde un peu vos commentaires dans la chatroom et j'en profite pour remercier Titanium31, Swan68Net et Pierre Rich pour vos soutiens. Un grand, grand merci à vous. Ça fait chaud au cœur, ce soutien. Je regarde un peu vos commentaires. L'ami Mulan, tu nous dis que des fois, les choix entre la limite ou la frontière entre moteur de recherche et navigateur web, elle est vraiment floue, notamment avec DuckDuckGo, qui peut être un moteur de recherche et aussi un navigateur Chromium. Ouais. « Je travaille au service du client d'une très grande marque de téléphone et effectivement, aucun client ne sait ce qu'est un navigateur web ou un moteur de recherche. Ouais. Mais oui, enfin, c'est connu, quoi. C'est connu. Bizarrement, Chrome arrive en dernier. Alors, l'exemple que j'ai donné, c'est un exemple parmi tant d'autres. En fait, pour chaque utilisateur, l'affichage est aléatoire. Donc, des fois, il sera en première position, des fois en dernier. Enfin, vraiment, non, c'est aléatoire. Tu pouvais voir aussi que Safari était très loin aussi dans la liste des choix. Voilà. Donc, ça sert à rien de commenter sur l'emplacement. Hein. C'était qu'un cas parmi des milliers de cas. Hop, je regarde un peu vos commentaires. Après, au fur et à mesure du temps, les gens vont peut-être apprendre et comprendre. Ça va prendre plusieurs années, mais les gens y arriveront peut-être. Gabi Siga, je comprends. Je comprends ton commentaire. Et peut-être que pour certains, oui. Mais je pense que c'est avoir une approche peut-être un peu naïve de se dire que les gens ont suffisamment de temps à perdre pour comprendre la technicité de ce genre d'éléments. C'est comme tu vas me dire, les gens vont comprendre, je sais pas moi, quel parallèle je pourrais te faire là-dessus, la différence entre un robinet avec telle technologie et un robinet avec une autre technologie et qui va permettre d'économiser de l'eau, etc. Tu vas peut-être t'y intéresser quand tu vas t'intéresser à changer de robinet. Mais en fait, tu pourrais dire que quand tu arrives dans un appartement, il y a un choix par défaut, celui qui est déjà mis dans l'appartement. et que tu vas pas t'y intéresser jusque-là. Tu vois, c'est... Franchement, on ne demande pas aux gens d'être des techniciens sur tous les sujets. tu vois, Oleg, voilà, c'est exactement ça. Marre de ma plomberie Google. Voilà, c'est pas l'intérêt. Les gens, ils veulent pouvoir utiliser facilement. Ils veulent pas, ils demandent pas à être experts d'un système, un operating system ou d'un navigateur, d'un moteur de recherche, etc. Ils veulent pouvoir les utiliser simplement. Et moi, je me suis fait la remarque l'autre jour quand j'ai installé de zéro, parce que je préfère installer de zéro mon iPhone que de réinstaller, etc., ce qu'il y avait avant. Mais en fait, tous les écrans de choix, de paramétrage, etc., je suis là, mais punaise, pour ne pas dire autre chose, ça me saoule. Je veux juste pouvoir utiliser mon iPhone. Et il y a 36 000 maintenant écrans de réglage qui sont plus ou moins clairs. Et genre, je m'en fous. Vraiment, ce n'est pas ça, quoi. Je veux pouvoir l'utiliser. Vraiment, il y a ce risque-là, quoi. Et franchement, je ne vais pas demander à mon père de 65 ans de passer du temps à essayer de comprendre la différence entre un moteur de recherche et un navigateur. Ça ne sert strictement à rien, ça ne va pas changer sa vie. Enfin, voilà. Alors oui, quand je vais juger qu'il y a un risque pour sa sécurité, je ne vais même pas essayer de lui expliquer. Je vais lui dire « fais-moi confiance ». Je pense qu'il faut mieux que tu fasses ça. Et voilà comment ça se passe. Et je vais carrément demander mon frère qui vit pas très loin de le faire pour lui, que mon père ait pas besoin de se prendre la tête quand c'est possible, c'est le plus confortable, plutôt qu'essayer de passer du temps à l'éduquer là-dessus. Genre, mon père a mieux à faire que ça. Voilà, tout simplement. Donc, tu vois, voilà, c'est juste ça. Après, la culture informatique, je pense que pour les nouvelles générations, peut-être, en effet, mais on n'en est pas tous à ce stade-là. Voilà, c'est juste ça, dans notre vie. Je regarde un peu vos commentaires. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord, je pense que c'est différent du code de la route. Le code de la route, tu mets en danger les autres si tu ne le connais pas et que tu ne le respectes pas. Ce n'est pas ton choix de navigateur ou de moteur de recherche qui va mettre en danger les autres autour de toi. C'est ton usage. Donc non. Non, je ne suis pas d'accord avec la comparaison. Mais par contre, Inku, en effet, sur mettre en place des cours d'internet à l'école, je pense qu'il y a une vraie importance ici sur comment utiliser Internet, trouver rapidement des résultats, faire son propre avis par rapport à ce qu'on trouve, croiser, etc. Oui, je pense que ça, il y a un vrai intérêt. Et il y a un vrai, ouais, The Gold Killer, les moins de 20 ans aujourd'hui ont le même niveau que les personnes âgées en technologie. Léo Techmaker avait fait une super vidéo sur ça. L'électronisme est un vrai sujet. On appelle ça l'électronisme, ce manque de capacité à comprendre comment utiliser correctement les outils numériques est vraiment là, en effet. Et c'est un vrai problème. Donc voilà. Enfin bon, voilà pour le sujet et les enquêtes lancées pour ce qui concerne l'application du DMA. Donc on enchaîne avec le prochain article qui est rapide et qui parle d'Apple, donc d'une de ces grandes sociétés dont on parlait déjà juste avant. Et en fait, c'est une brève, hein, une brève sur des rumeurs sur ce que comporterait iOS 18. Bon, si vous êtes intéressé par le sujet d'iOS 18, je vous encourage à aller regarder la vidéo évidemment de Naotech qui est sortie sur YouTube récemment, genre il y a 2 jours. Pour les intéressés, les curieux d'iOS 18, allez-y, nouvelle vidéo disponible sur le sujet. Et évidemment, on continue d'avoir des rumeurs avant la conférence officielle de lancement en juin. Et donc cette fois-ci, ça serait donc une rumeur qui vient notamment de Mark Gurman et de sources familières avec le sujet, qui dirait que potentiellement avec iOS 18, on aurait la possibilité de plus encore customiser l'écran d'accueil d'Apple. Donc l'écran d'accueil, c'est là où vous retrouvez toutes vos applications ou vos widgets, pour ceux qui ont mis des widgets. Donc déjà, on avait vu une tendance dans les dernières années avec Apple de pouvoir permettre plus de flexibilité et de liberté, justement en permettant d'avoir ces widgets-là, ce qui était déjà une grande amélioration. Mais vous aviez toujours cette espèce de grille automatique et de placement automatique qui fait que les apps se mettent toujours l'une après l'autre et que vous ne pouvez pas avoir de trous. Et d'organisations qui permettent d'aérer l'organisation. C'est toujours vraiment le but de combler tous les trous de placement sur l'écran d'accueil, ce qui peut être un peu genre chargé en écran d'accueil. Alors vous aviez des applications qui vous permettaient de contourner la contrainte et de créer des faux vides, mais là, a priori, ça serait supporté nativement avec l'arrivée d'iOS 18. Et donc à quoi ça ressemblerait? Ben, tout simplement, ça ressemblerait à quelque chose comme ça. Voilà. Pour ceux qui voudraient. Donc bon, là, c'est juste un exemple parmi tant d'autres, mais voilà de quoi on parlerait en termes d'organisation et de plus de flexibilité sur l'écran d'accueil. Voilà le petit exemple. Ce qui est intéressant, c'est que ça va aussi dans la tendance de l'écran verrouillé où on a déjà des possibilités de un peu plus poussées de customisation, donc c'est assez logique ici. Voilà, donc je ne veux pas passer plus de temps hein, parce que c'est vraiment vraiment une brève, mais je trouvais ça sympa quand même d'être au courant de ces rumeurs. On continue, parce que comme je vous disais, je voulais passer très très vite sur le sujet pour aborder le sujet du jour. Justement, comment dire, les pays qui essayent de se désengager de Visa et Mastercard en commençant à plancher sur leur propre système de paiement. Pourquoi? Eh bien, voilà, donc petit contexte ici, c'est un mouvement que l'on constate un peu aux quatre coins du monde, pardon. Il y a une volonté de la part de certains pays de se désengager de l'utilisation de Visa et Mastercard sur leur propre territoire et pour leurs ressortissants lorsqu'ils payent en dehors aussi de leurs frontières. Pourquoi ? Donc ça, c'est intéressant de creuser un petit peu sur les raisons. La première raison, ça serait des commissions de plus en plus exorbitantes. On a une augmentation quand même significative ces 7 dernières années des commissions cartes imputées aux marchands. Et ça peut être une des explications sur ce recul des pays. Notamment, à savoir que lorsqu'il y a un paiement par carte, il y a une commission qui est payée par le marchand et qui permet de rémunérer plusieurs acteurs. La banque acquéreur, la banque émettrice de la carte et également le réseau d'autorisation et d'authentification en e-commerce. Donc ça peut être CB, Mastercard, Visa. Voilà. Mais sachant que, le modèle économique actuel rémunère donc l'émetteur de la carte de façon disproportionnée par rapport à l'acquéreur et encore plus sur les cartes qui sont des cartes business. Donc par exemple, nous, heureusement, on a une réglementation européenne qui encadre les commissions de cartes particuliers avec des taux de 0,2 à 0,3% en fonction de si c'est une carte de débit ou une carte de crédit. Mais par contre, ils ont laissé libre les tarifs des cartes business. Et le problème, c'est qu'on a une transaction CB business qui est plafonnée à 0,9%, alors qu'une transaction Visa ou Mastercard business, elles peuvent aller jusqu'à 2% lorsque c'est hors Europe. Donc, c'est quand même énorme par transaction. Hein. Donc, c'est assez énorme. Donc, le problème avec ça, c'est qu'il y a certains établissements de paiement qui gagnent un peu sur les deux tableaux, à la fois en acquisition et à la fois en émission de cartes. Et d'un côté, ils proposent aux marchands de gérer leur flux Visa Mastercard, et pas CB, en facturant des commissions d'acquisition. Et de l'autre, ils gagnent une commission émetteur en tant qu'émetteur de la carte et lorsque chaque carte est utilisée. Et donc, du coup, en face de ces tarifs un peu prohibitifs, on a certains pays qui, non seulement ont développé leurs propres moyens de paiement en local, mais également ont cherché à diffuser son acceptation hors de leurs frontières pour pouvoir un peu généraliser les paiements en dehors des frontières. Donc, on a notamment les Chinois avec UPOP. C'est une carte China Union Pay qui ont été un peu les premiers ici à convaincre les banques européennes d'accepter leurs cartes sur les terminaux de paiement européens et qui permet de s'interconnecter directement avec le réseau chinois pour permettre de payer avec ces cartes chinoises directement à l'étranger. On a également l'Inde qui a constaté aussi une croissance exceptionnelle des paiements par QR code grâce à l'utilisation massive de l'application BHIM UPI. Et donc, fort de ce succès après Singapour, on a donc BHIM UPI qui déploie pour les citoyens indiens l'acceptation de son moyen de paiement chez les marchands européens. Le premier en Europe à accepter ce paiement par QR code, c'est la Tour Eiffel, qui accepte le QR code de BHIM UPI. On a d'autres exemples, notamment au Brésil, avec Pix, qui a détrôné l'usage de la carte carrément et cherche lui aussi à se déployer en Europe avec un avantage important pour les ressortissants brésiliens. C'est que lorsque ces derniers paient à l'étranger avec une carte Visa Mastercard, ils sont imposés par l'État brésilien une taxe que l'utilisation de Pix viendra ici réduire. Donc, ils ont vraiment tout intérêt à ne pas utiliser leur carte, mais plutôt à utiliser Pix à la place. Et donc, du coup, il reste un peu aux institutions financières européennes ici à déployer un vrai moyen de paiement alternatif pour limiter les frais de réseau Visa et Mastercard. On a donc déjà parlé du projet Wero, hein, qui répondra peut-être à cet enjeu, mais pour l'instant, il n'est pas encore arrivé. Il devrait arriver bientôt, mais il n'est pas encore là. Un grand, grand merci pour le raid Un Monde de Jeux et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Un grand, grand merci aux 72 personnes qui nous rejoignent. Ici, on parle d'actualité tech et on parle notamment des moyens de paiement et de pourquoi certains pays essayent de moins utiliser ou se reposer sur les protocoles Visa et Mastercard. Et donc, continuons un petit peu sur le sujet de l'Union européenne et peut-être un peu plus français. On a quand même, pour remettre en contexte, en 2016, il y a eu la vente par les banques européennes de Visa Europe à Visa Inc., qui a permis à Visa de rentrer en concurrence directe avec les marques locales de cartes débit et crédit, comme carte bancaire, qu'on appelle CB. C'est le logo de CB que vous voyez derrière votre carte bancaire. Normalement, vous avez un logo Visa ou Mastercard devant et derrière, vous avez un logo CB. Et ça, c'est le système français ici. Ce n'est pas juste une carte bancaire, c'est vraiment un protocole français. En Allemagne, on a Girocard. En Belgique, on a Bancontact. Et en Italie, on a Bancomat. Donc, on a ce genre de protocole vraiment spécifique par pays, en plus de Visa, Mastercard, qui sont, eux, à l'échelle internationale. Et donc, on a la plupart des cas, des cartes qui sont co-brandées, comme je vous disais, avec les deux. Le système local, que je vous disais, donc CB, Girocard, Bancomat, Bancontact, etc., et à la fois un système international comme Visa et Mastercard. Et donc, ces cartes co-brandées représentent à peu près quasiment 100% dans tous les pays. Or, c'est un peu moins le cas, puisqu'on a quand même aujourd'hui des sociétés qui déploient des cartes qui sont uniquement sur l'un ou l'autre. Notamment Revolut, N26, Bunk, Konto, Shine, Orange Bank, Nickel, etc. Et on a aussi des cartes cadeaux qui vont déployer aussi le protocole Visa et Mastercard. Donc, c'est ce qu'on voit depuis un certain temps, c'est que finalement, les marques locales sont en retrait par rapport aux marques internationales, etc. Et donc, du coup, c'est une évolution qui est aussi s'explique parce que il y a eu Visa qui avait demandé à l'époque, en 2016, lors du rachat, qu'on permette aux consommateurs de choisir leur marque préférée sur les terminaux de paiement. Et donc, vous pouvez le voir, hein, notamment lorsque vous payez sur un achat Internet, vous devez choisir Visa, Mastercard, CB, etc. Et moi, j'avais toujours compris ça comme... comment fonctionne ta carte et choisis le protocole avec lequel elle fonctionne. Et donc, je ne me posais même pas la question de CB. Pour moi, c'était soit Visa, Mastercard. Donc, c'est pour vous dire un petit peu le manque de connaissances que j'avais aussi. Et je pense que c'est malheureusement, on parlait du choix de navigateur et de moteur de recherche. Je pense que malheureusement, on est un peu en face du même élément. C'est qu'en fait, on est victime du biais de la marque la plus connue. Et CB n'est pas une marque connue. Pour moi, c'était la notion de carte bancaire ou de carte bleue. Enfin, ce n'était pas une marque. Ou ce n'était pas une marque locale française, etc. Et que je n'avais pas l'impression de devoir faire un choix entre les deux. C'est pour moi, je faisais un choix entre Visa et Mastercard. Et ce n'était même pas un choix de ma part. C'était un choix de ma carte est compatible avec quel système. Voilà. Donc, j'étais vraiment en mode passive ici. Alors qu'en fait, non, il y a un choix. Et on le voit, c'est une évolution qui n'a pas été sans conséquences. Avant ce choix de la marque en 2019, la CB représentait 94% des transactions e-commerce contre 6% pour Visa et Mastercard. Aujourd'hui, en 2024, CB ne représente plus que 67% en e-commerce. Donc un vrai retrait ici de la connaissance et de la popularité de la CB. Et donc, du coup, on pointe ici du doigt justement sur la faiblesse de la connaissance de notre marque. Contrairement à Girocard en Allemagne ou Bancontact en Belgique, en France, on y a une vraie méconnaissance sur la marque locale CB. Et voilà. Et c'est vrai que pour travailler avec Alan, où on est présent en Belgique et en Espagne, j'avais discuté comme ça sur le fait que on avait des choses où tu peux payer et acheter avec une carte dans l'application Alan. Et on avait mes collègues belges qui disaient « Ah, mais Alan ne supporte pas Bancontact. » Et j'étais là « Mais c'est quoi Bancontact, quoi ? On s'en fout un peu. » Genre, c'est un truc anecdotique local. Non, c'est un moyen de paiement ultra connu en Belgique qui est standard. et on ne peut pas se permettre de ne pas le supporter. Et c'est là où, voilà, il y a un vrai intérêt à connaître finalement les habitudes des consommateurs et à permettre de payer dans les modalités dont les gens ont l'habitude de payer. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc voilà, donc le constat est, on a une vraie faiblesse de marque locale avec CB, qui est souvent nommée à tort carte bleue, alors que c'est carte bancaire, et dont le logo est d'ailleurs souvent caché au dos de votre carte. Et donc c'est une perte de vitesse qui a été constatée donc, ces dernières années, qui devrait peut-être inciter donc, les Français, ou même plus largement peut-être les Européens, à suivre peut-être l'exemple des autres pays, et à vraiment développer une solution de paiement qui pourrait s'affranchir un petit peu de Visa et Mastercard et contrôler un petit peu les frais de commission ici qui pourraient bénéficier du coup aux consommateurs à la fin. Donc à voir, est-ce que Wero sera cette solution capable de répondre aux questions d'indépendance et de souveraineté d'un moyen de paiement européen? Peut-être. C'est vraiment une question ouverte ici. Il n'y a pas de réponse encore. Mais on reviendra dessus, évidemment, quand on aura plus d'informations sur cette solution et quand elle verra le jour réellement. Je regarde un peu vos commentaires dans la chatroom, parce que je pense que ça a pu peut-être vous faire réagir. J'ai cru voir quelques commentaires. En Espagne, il y a Bizum qui essaie de se placer sur ce marché aussi. Merci Hello Chico pour l'info. Bourseau et caisse d'épargne aussi, c'est un bon point. J'ai pas vérifié ma carte Boursorama, mais Boursorama m'empêche d'avoir une carte bleue, donc enfin une carte bancaire. Donc je ne vais pas me lancer sur ce sujet parce que je suis vénère. Usurpation d'identité, bonjour. Bref. Mais ouais, c'était possible en effet. J'ai l'impression que toutes les banques un peu modernes essayent d'aller au plus simple et d'avoir qu'un opérateur et moins de cartes co-brandées. Peut-être parce que c'est compliqué, peut-être, d'avoir le protocole CB. Visa et Mastercard sont peut-être trop bien placés pour s'inquiéter d'un nouveau système, de paiement sans leur service pour qui... Ouais, mais David le Panda Fou, je ne suis pas certaine, parce qu'on a vu que dans certains pays, certains moyens de paiement étaient tellement adoptés que tu vois, même la Tour Eiffel l'accepte et que certains sont vraiment déployés hein, partout. Donc, je me méfierais hein, de s'asseoir un peu sur une position soi-disant dominante, comme ça. La Chine et l'Inde veulent surtout plus que leurs citoyens utilisent des produits étrangers. Mimi Cacole, là, on parle de souveraineté. Et donc, du coup, tu pourrais argumenter la même chose des Européens. Tout simplement. Et c'est une tendance qu'on observe, pas uniquement sur les moyens de paiement. Je regarde un peu. Je pensais aussi qu'il fallait choisir ce qu'il y avait écrit sur la carte, mais souvent, ta carte a le logo CB derrière. Sauf que tu as à la fois le biais que tu as l'impression que c'est juste le fait que ce soit une carte bancaire, enfin, une carte de paiement, alors qu'en fait, c'est vraiment une carte bancaire, et que tu pourrais choisir ce moyen de paiement et qu'à la fois, ce logo est derrière par rapport aux autres. Ah, c'est pas Ban Contact, c'est Banque Contact. Merci Yves Castel pour la correction. Donc, c'est ce qu'on appelle des cartes co-brandées. Il y a deux marques sur la carte. Vous pouvez choisir l'une ou l'autre quand vous avez les deux. Donc, à vérifier. Hein. Mais je vous invite à vérifier sur vos cartes. Si vous avez des cartes de banque un peu traditionnelles, type Crédit Agricole, etc., il est probable que vous ayez les deux. Voilà. Ah, caisse d'épargne à retirer aussi. Donc, à voir. Mais faites le test. Faites le test. Ah, il y en a qui me disent, t'as cité une des pires banques en France. Ah, bah, j'aurais dû le savoir avant d'aller chez eux. Bref. Oui, c'est pareil en Allemagne, avec EC, tu peux avoir EC et Mastercard, par exemple. Sur la carte, j'ai les trois, CB, Visa et Mastercard. Laetitia Schlupa, bah écoute, tu peux tout faire. Voilà. Donc allez-y, faites le test et puis voilà. Mais à voir, je pense que la dette de la marque CB sera difficile peut-être à combler. Mais en tout cas, vous êtes au courant. Donc voilà. On continue et on va parler très très rapidement de certaines petites news et des petites brèves sur des mises à jour qui arrivent sur certaines applications. On va parler très rapidement de Spotify. Qu'est-ce qui se passe du côté de Spotify? Eh ben, Spotify jusqu'ici se limitait à de l'audio seulement, puisqu'il vous permettait d'écouter de la musique, de pouvoir écouter des podcasts ou également des livres audio. Voilà, ça c'était la dernière addition. Mais maintenant, c'est pas tout. Il y a l'arrivée carrément de leçons sous forme de vidéos qui arrivent sur l'application. Alors pour l'instant, les vidéos sous forme de leçons n'arrivent uniquement que sur l'application du Royaume-Uni, voilà, disponible au Royaume-Uni, où vous aurez donc accès à cette quatrième catégorie de contenu à côté donc des musiques, des podcasts et des audiobooks. Vous avez ces cours en ligne vidéo qui sont maintenant disponibles. Ce sont des vidéos qui proviennent de BBC Maestro, Skillshare, Thinkific et Play Virtuoso, qui sont rendus disponibles directement sur l'application Spotify, à la fois mobile et desktop. Pas besoin de télécharger une autre application, c'est directement dans votre application Spotify déjà existante. Alors, ça peut sembler étrange, vous allez me dire, bah, entre écouter et regarder, c'est pas tout à fait la même expérience. Je suis la première, honnêtement, à m'interroger. Mais en tout cas, on a donc le directeur produit Mohit Jitani qui dit que justement, les gens étaient déjà en train de venir sur Spotify pour du contenu éducatif, notamment à travers les podcasts. Et donc pour eux, bah, afin de pousser cette offre de contenu, eh ben, ils ont décidé de la pousser sous forme de vidéo. Et il y aura toujours le choix de ne pas regarder la vidéo, mais de uniquement écouter la vidéo, donc rester à la fois très aligné avec le mode de consommation classique de Spotify. Je m'interroge quand même sur est-ce qu'ils vont réussir à faire évoluer les usages vers la vidéo, mais pourquoi pas? En effet, c'est un test intéressant. Voilà, donc dans un premier temps, donc ces cours en vidéo sont composés de plusieurs cours, de plusieurs vidéos en un cours sur un sujet. Et donc du coup, dans un premier temps, il y a une forme un peu freemium, où vous allez pouvoir, qui est un peu similaire avec le lancement des audiobooks, où au début c'est gratuit, à la fois les utilisateurs sur la formule gratuite de Spotify et à la fois sur la formule premium de Spotify vont pouvoir accéder aux deux premières vidéos de chaque cours et ensuite devront payer pour pouvoir accéder à la suite du cours et aller jusqu'à la complétion de leur cours. Donc, à voir si ce modèle va fonctionner, mais ça peut générer une nouvelle source de revenus pour Spotify. Ils vont devoir, les utilisateurs auront l'obligation de payer pour accéder à tout le cours. Ils ne peuvent pas payer directement dans l'application, parce que ça, c'est la limitation d'Apple et de Google, où Spotify est contre la rémunération des frais in-app, des achats in-app. Voilà. Et donc, du coup, bah, ça veut dire qu'il faudra avoir aller sur le web pour aller payer justement et acheter ses cours. Ça ajoute pas mal de friction finalement dans l'expérience, mais à voir. On verra si ça fonctionne. En tout cas, ce test, pour l'instant, est uniquement disponible en Grande-Bretagne. Donc, pas la peine d'essayer de le chercher pour nous. Mais vous êtes au courant, ça arrivera peut-être plus tard. Ou finalement, ils s'apercevront malheureusement que ça ne fonctionne pas. Et peut-être qu'ils ne le déploieront pas ailleurs. À voir. On continue. Et l'autre application dont je voulais vous parler avec des petites mises à jour, c'était Threads. Threads, réseau social qui vise à concurrencer X, Twitter, mais qui appartient à Meta. Et alors, il y a plein de petites nouveautés qui vont faire leur arrivée sur Threads. La première nouveauté dont je voulais vous parler, c'est l'arrivée des scores en temps réel affichés sur l'application. Alors, à quoi ça ressemble ? Ça ressemble à ça. Vous pouvez voir que lorsque vous cherchez une équipe, qui a un match ou qui a eu un match récemment, ça va vous afficher un petit encart avec le score le plus récent que vous pouvez suivre et vous pouvez à la fois voir le flux de messages en dessous. Donc ça prend cette forme, c'est pas ultra révolutionnaire, hein. C'est quelque chose que Twitter X fait déjà, que Apple essayait aussi de faire avec leur en poussant leur intérêt sur le sport. Mais voilà, Threads va commencer à afficher les résultats live dans leurs résultats de contenu. C'était quelque chose que Mark Zuckerberg, hein, CEO de Meta, avait annoncé là-dessus. Et ils vont ajouter évidemment plus de ligues dans le futur, mais ils commencent avec la NBA, donc basketball ici. Donc, quand le jeu sera terminé, que vous cherchez quand même, faites quand même cette recherche, vous aurez le score final. Vous pouvez également chercher quand un jeu va commencer en le cherchant avant le début du jeu, etc. Donc, ça ressemble beaucoup à ce qui existe déjà ailleurs. Les deux scores seront accompagnés, évidemment, des logos des équipes. Et quand vous tapez quand vous cliquez sur l'un des logos des équipes, vous serez redirigé vers la conversation sur cette équipe spécifique. Voilà. En effet, un des personnes qui parlent de Threads, des personnes publiques et représentants de Threads, avait dit notamment que, en effet, le basketball était devenu un des sujets les plus populaires sur la plateforme. Et c'est pas très étonnant, en effet, que Threads souhaite encourager ce genre de discussion. On avait vu que Twitter voulait faire ça également. Et surtout, c'est un moyen de mettre l'accent sur le temps réel, sur des sujets plus safe, plus moins dangereux que les sujets politiques ou autres, ou l'actualité, etc. Le sport, les matchs, etc., ça génère beaucoup de passion, beaucoup d'échanges live, mais ça reste quand même un peu plus facile à gérer que des sujets du type politique ou actualité classique, quoi. Donc, c'est pas très étonnant que Threads essaye d'accélérer un petit peu sur ce sujet sport. L'autre sujet, du coup, sur lequel ils essayent de ralentir, je viens de taper le micro, c'est justement le contenu politique dont je viens de mentionner. Et donc, alors, c'est pas nouveau non plus. Meta avait déjà confirmé en début d'année qu'il voulait laisser le choix aux utilisateurs de voir moins de contenu politique. Et donc là, en fait, ils sont en train de déployer cette fonctionnalité. Moi, je ne l'ai pas encore. J'ai testé ce matin. Ce n'était pas disponible dans mon application. Donc, ça va être un déploiement progressif. Vous avez normalement une nouvelle option qui est activée par défaut. Et donc, ça veut dire que par défaut, le contenu politique sera réduit. Donc là, le contenu politique, je parle uniquement du contenu politique suggéré. Je ne parle pas du contenu politique des comptes que vous suivez, parce que ça va continuer à s'afficher. C'est des comptes que vous avez signalé vouloir suivre, et donc vous allez pouvoir continuer à voir leur contenu sans filtre ou barrière. Mais par contre, pour tous les emplacements de suggestions ou de recommandations de contenu, là, ça sera par défaut réduit. Moins de contenu politique visible. Vous pourrez vous-même aller dans les réglages et changer ça pour pouvoir continuer à avoir des recommandations plus politiques, mais sinon, pour la majeure partie, ça sera l'inverse. Donc voilà, donc on sent ici qu'ils essayent de prendre des pincettes pour limiter les risques, notamment, on le sait, avec l'événement phare des élections américaines qui vont arriver très prochainement et qui représente un vrai danger. Ici, on l'avait vu sur les précédentes élections américaines, que c'était un vrai danger pour les plateformes. Donc, où est-ce que vous pouvez le trouver ? Ben voilà, vous pouvez le trouver comme ça. Hop, j'essaie de vous afficher. Voilà à quoi ça ressemblera. Donc, il faut aller dans les réglages de votre compte et lorsque vous allez sur suggestion de contenu, vous allez pouvoir gérer un petit peu le contenu politique. Donc, vous pouvez voir en quatrième choix, vous avez, en cinquième choix, pardon, political content. Et lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez choisir de limiter le contenu politique de personnes donc, que vous ne suivez pas. Voilà. Donc, comme ça, c'est assez explicite. Il n'y a pas de changement pour les personnes que vous suivez. Voilà. Donc, voilà pour ça. Ça devrait être déployé et arriver très vite dans votre application. Et dernière nouveauté qui fait son arrivée sur Threads, c'est le positionnement de Threads en ce qui concerne le fait divers. Alors, d'abord, c'est quoi le fait divers ? C'est peut-être un espèce de mot que vous avez vu, voilà, partagé de plus en plus, par-ci, par-là. C'était mon cas. Moi, je n'étais pas très, très familière avec le concept de fait divers. Et en fait, le fait divers, c'est le réseau qui va permettre à des plateformes de social, des plateformes sociales individuelles, de pouvoir poster. Et que lorsque vous postez sur l'une d'entre elles, ça va automatiquement partager votre post sur les autres plateformes. Voilà. Donc, le principal, donc Fediverse, c'est une forme courte de Federated Universe. Et ça décrit en fait l'idée de permettre à des plateformes sociales d'être à la fois indépendantes et interconnectées. Le terme a été utilisé pour la première fois pour désigner les réseaux sociaux qui utilisaient le protocole de partage qu'on appelle OStatus. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien. Et dont Mastodon était un peu le premier défenseur. Depuis, le protocole OStatus, le protocole de partage OStatus, a été détrôné par le protocole ActivityPub. Je ne vais pas débattre du bien fondé d'avoir détrôné ou pas OStatus. Je ne m'y connais pas assez là-dessus, mais en tout cas, à savoir qu'aujourd'hui, le protocole de partage le plus répandu, c'est ActivityPub. Et ça veut dire que chaque plateforme sociale doit supporter ce protocole pour pouvoir finalement faire partie de ce fait divers. Et donc, du coup, bah là, il y a Fred qui s'est exprimé, notamment l'ingénieur Peter Cottle, qui avait partagé une petite présentation sur justement Threads et le fait divers. C'était un événement virtuel pour les enthousiastes des réseaux sociaux décentralisés. Et donc, dans la démo, il explique que justement, Threads, les utilisateurs sur la plateforme vont pouvoir opt-in au fait divers, au partage fait divers. Et donc, ça permet tout simplement, depuis les réglages du compte, un peu comme je vous le disais pour notamment le réglage de contenu politique, bah là aussi, vous aurez un contrôle qui va permettre de partager. Et donc, vous allez pouvoir y aller pour opt-in et pouvoir faire partie du fait divers sharing. Comment ça sera en termes d'expérience ? Eh bien, ça sera tout simplement que lorsque vous allez commencer à écrire un message que vous souhaitez poster sur Threads, vous allez voir un petit logo. Alors, je vais essayer de vous montrer. Un petit logo qui mentionne, qui fait référence en fait au fait divers. Ça ressemble à ça, ce petit icône. Ce petit icône mentionne le fait divers. Et lorsque vous voyez cette icône, lorsque vous êtes en train de rédiger un post, ça veut dire que le fait divers est activé, le fait divers sharing. Et ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que tout simplement, votre post sera partagé à la fois sur Threads, mais à la fois sur les autres plateformes qui font partie du fait divers, notamment bah, peut-être Mastodon, etc. Donc ça, voilà, vous serez averti. À savoir que seuls les comptes publics auront cette possibilité de partager directement sur le fait divers. Et il a également renseigné que les utilisateurs auront une fenêtre de 5 minutes avant que les posts soit live et posté sur les autres plateformes pour permettre aux personnes de faire des changements, à la fois d'éditer le message ou d'éviter qu'il soit posté sur le fait divers. Par contre, Threads mentionne bien qu'une fois que vous supprimez vos posts Threads sur Threads, il n'y a aucune garantie qu'ils arrivent à supprimer le post dans le fait divers. Parce que là, ça veut dire carrément donner le contrôle à d'autres plateformes sur des fonctionnalités sur des plateformes pour supprimer des posts, ce qui n'est pas garanti. Donc voilà, à savoir. Donc voilà un petit peu qu'est-ce que ça veut dire le fait divers. Et puis enfin, la dernière news, la dernière feature, fonctionnalité qui fait son arrivée sur Threads et qui avait fait beaucoup parler d'elle justement au lancement de Threads à l'époque, c'était l'arrivée des trending posts qui va arriver et qui arrive très vite sur le réseau social. Dans un premier temps, ça va être lancé aux États-Unis. Donc, on ne l'a pas encore. Ça arrive aux États-Unis pour quelques utilisateurs américains. Et donc, en fonction du test, s'il est concluant ou pas, peut-être qu'on verra, du coup, les posts qui sont trending arriver aussi en Europe. À voir. Voilà, voilà pour les news tech ce matin. Je regarde un peu vos commentaires dans la chatroom. Oui, ça s'écrit Fediverse, Federated Universe. Je n'ai pas un accent parfait qui me permet de... Mais moi aussi, au début, j'avais compris Fediverse, comme tu disais. Tout à fait. Voilà, voilà. Ben écoutez, je vois qu'il est déjà 9h27. J'espère que vous avez passé un bon moment durant cette émission. Moi, c'est mon cas. Toujours un bon moment en votre compagnie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine en ma compagnie, mardi matin, pour continuer à discuter de l'actualité tech. Et sinon, vous pouvez retrouver Jérôme jeudi matin et vendredi matin pour la prochaine émission Le Mug. En attendant, n'oubliez pas, nouvelle vidéo disponible sur la chaîne et je vous souhaite une excellente journée. Avant de se quitter, on va quand même regarder vers qui on peut faire un raid ce matin. Hop, et on va faire un raid vers. On va aller vers Final Fantasy, tiens. Zabab TV, ça a l'air sympa. Voilà, je vous souhaite une excellente journée à tous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et à très bientôt. Bye bye.